Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Donc aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Avec pour présenter l'émission Mathieu Maury et Laurent Godino, et Claude à la technique. L'émission de ce soir est consacrée au microcrédit et à la finance solidaire, intitulée « Quelle place pour la finance alternative dans l'économie actuelle, une aubaine pour les banques ou une solution pour les plus pauvres ?» Pour en discuter avec nous, donc trois invités, Michel Lelard, directeur de recherche émérite au CNRS, laboratoire d'économie d'Orléans, et Arnaud Berger, donc directeur Île-de-France de l'ADI, donc il nous expliquera ce qu'est l'ADI. Et puis on aura certainement donc un troisième invité qui nous appellera en cours d'émission, qui représentera la NEF, donc Henri Giroux. Nous passerons également des extraits du documentaire de Valérie Desnel, La banque qui veut prêter plus, ADR Productions, consacré donc à la NEF, la nouvelle économie fraternelle, et ces extraits seront diffusés au cours de l'émission. Vous pouvez appeler l'émission au 01 40 05 06 10 et vous pourrez la retrouver ensuite, comme toutes les précédentes, sur le site internet de la Fondation Copernic, www.fondation-copernic.org.
Pour commencer cette émission sur le microcrédit et la finance solidaire, on va demander à Michel Lelard, qui est donc directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire d'économie d'Orléans, de nous éclairer un peu sur les différents termes, donc microcrédit, microfinance, finance informelle, finance solidaire. Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces termes? Expliquez-nous un petit peu.
Oui, eh bien je crois que le terme le plus ancien, c'est la finance informelle. La finance informelle, ce sont des pratiques financières qui existent un peu partout dans les pays du Sud et qui consistent à ce que des personnes qui se connaissent bien forment un petit groupe et puis au sein de ce groupe se prêtent et s'empruntent de l'argent à tour de rôle. On appelle ça des tontines, c'est la formule la plus fréquente et c'est très répandu dans la plupart des pays africains, en Asie bien sûr aussi, en Amérique latine également. C'est donc la finance informelle. C'est des opérations que les personnes font entre elles. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est de la finance directe.
Ça, c'est né bien avant le microcrédit, en fait.
Absolument.
C'est pratique.
Oui. D'ailleurs, ça existait autrefois sous forme pour le travail. Dans un village africain, par exemple, quand il y a une tempête et que les murs, les toits des maisons sont abîmés, au lieu que chacun répare le sien, on va tous réparer le plus abîmé, puis ensuite on fait les autres. C'est une tontine de travail.
D'accord. Voilà.
Donc c'est la même formule, si ce n'est que plus tard, c'est avec de l'argent que cela s'est fait.
D'accord.
Donc ça, c'est la finance informelle. Alors maintenant, la microfinance. La microfinance, c'est venu après. Le mot est arrivé dans les années 80, à peu près. Et c'est plus la même chose, parce que là, c'est la finance indirecte, en ce sens qu'entre celui qui prête et celui qui emprunte, il y a une institution. Alors, la microfinance, a démarré vraiment, si vous voulez, et est devenu très connu lorsque Mohamed Younous, au Bangladesh, a observé que dans son village, des femmes empruntaient un tout petit peu d'argent le matin, qui travaillaient toute la journée, et puis le soir, elles avaient gagné 2 centimes d'euros par jour. C'était il y a 30 ans, mais quand même, c'était pas beaucoup. Alors, il a eu l'idée de prêter...
Il est remboursé surtout à des taux très importants, taux d'usure.
Elle les empruntait matin à l'usurier, elle travaillait pour lui, et le soir, l'usurier, elle rendait à l'usurier s'il avait prêté, lui donnait l'équivalent de 2 centimes d'euros.
D'accord.
par jour, pour avoir travaillé pendant 10 heures. Alors, quand il a vu ça, Mohamed Younous a décidé de prendre un petit peu d'argent à lui et de le donner à ses femmes. Dans son village, il y en avait, je ne sais pas, une trentaine, je crois, et à chacune, il a donné un petit peu d'argent, si bien qu'elles n'ont plus eu besoin d'emprunter, et elles ont pu conserver pour elles tout ce qu'elles gagnaient dans la journée. Et ça, elles ont commencé à devenir autonomes, à gagner un peu d'argent, et par conséquent, c'est parti comme ça.
D'accord. Alors, elles lui ont remboursé la somme qu'il leur avait prêtée
Ça, on ne le sait pas, je ne suis pas certain. En tout cas, même s'il l'a perdu, il n'a pas perdu beaucoup, parce que c'était quoi, une poignée de dollars, si vous voulez. Hein, c'était vraiment pas des grandes sommes. Voilà, ça a commencé comme ça, ça a bien marché là-bas, et puis ça s'est généralisé. Je crois que Marianne Novak, qui a inventé la vie, on en parlera tout à l'heure, a recopié le modèle. D'ailleurs, elle connaît bien Mohamed Younous, et je crois on le dit d'ailleurs, la vie, c'est un peu le même modèle en France, mais c'est pas seulement en France qu'il y a ça, il y a ça dans beaucoup de pays du Nord. Par conséquent, ça, c'est le départ de la microfinance. Alors, la microfinance, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois, c'est surtout du crédit. Du petit crédit, naturellement, c'est pas des grandes sommes, bien entendu, c'est l'équivalent pour nous de 50 euros, 100 euros, enfin à peu près, hein, un petit peu plus, mais jamais beaucoup, accordé à des personnes sans ressources, du moins qui ont peu d'argent, et qui avec ça vont faire quelque chose, et en gagner un peu plus, et surtout, c'est un crédit accompagné. C'est-à-dire que c'est pas un crédit tout seul, ça veut dire qu'une institution qui accorde ce crédit va accompagner le crédit en offrant à l'emprunteur un service de formation, c'est-à-dire comprendre comment il faut calculer un prix de revient, et calculer l'amortissement, quelquefois simplement faire des comptes, faire une démarche. Donc c'est un petit crédit accompagné et accordé par une institution qu'on appelle l'institution de microfinance. C'est pas seulement du crédit, hein, c'est normal que l'institution incite l'emprunteur à qui elle prête un petit peu d'argent à épargner aussi dès qu'il le peut, et puis aussi elle va essayer de lui offrir aussi un service d'assurance, parce que plus les gens sont pauvres, plus ils ont besoin d'être assurés. Et maintenant, on parle beaucoup maintenant du transfert d'argent, hein, vous savez, c'est très important maintenant, avec l'immigration, les déplacements de population, tout ça. Hein, donc ces institutions de microfinance, eh bien, elles sont entre le prêteur et l'emprunteur, et elles accordent du crédit, mais pas seulement du crédit, et toujours du crédit accompagné.
Il y a une des caractéristiques aussi, c'est que ce sont des prêts contractés collectivement. Hein. C'est un peu le principe, oui. En tout cas, que M. Mohamed Younous avait installé, c'était de créer une solidarité des emprunteurs.
Lui a imaginé de prêter à des groupes de femmes, je ne l'ai pas dit, vous avez raison, 5 ou 6 femmes à qui il prêtait, et les femmes sont solidaires du remboursement. Si l'une ne rembourse pas, les autres le remboursent pour elles. Mais il y a aussi du crédit individuel, hein, du crédit personnel, si vous voulez. Il y a deux formules, ça dépend des institutions, quelquefois le crédit groupé, quelquefois le crédit personnel, direct.
Dans les premières initiatives, il n'y avait pas forcément de taux d'intérêt, mais petit à petit, quels sont les niveaux des taux d'intérêt qui sont appliqués?
Oui, alors c'est quand même des taux d'intérêt assez élevés. D'abord, il faut savoir que la microfinance est très, comment dirais-je, on trouve de tout, hein, on trouve de tout, selon les pays, selon les régions, selon les institutions, selon les clients, et il y a vraiment toutes les formules. Par conséquent, les taux, c'est la même chose, on trouve des taux très variables. On peut trouver des taux bas, ça peut arriver, des institutions qui sont à vocation sociale, hein, notamment, enfin, le plus possible, mais on trouve aussi naturellement des taux d'intérêt plus élevés. Le problème, c'est que ces petits crédits, là, ils coûtent cher. Accorder des crédits de 100 euros, vous comprenez, ou quelquefois c'est même moins, ça coûte cher de gérer tout ça. Hein, c'est plus facile de prêter, d'accorder un crédit de 10 000 euros que 100 crédits de 100 euros. Donc, la seule façon pour l'institution d'arriver à tenir et d'arriver à continuer cette opération, c'est d'être rentable, du moins d'être autonome. Et la solution, c'est naturellement d'augmenter les taux d'intérêt. Ce qui aboutit à ce résultat que ce sont les pauvres qui payent le plus d'intérêt.
On parle généralement de 20 à 30%, c'est ça?
Ah oui, ça peut même aller au-delà. Hein, oui, mais effectivement, je dirais que le cas le plus fréquent, c'est ça, c'est 2% par mois, donc ça fait à peu près 25% par an. Par an. Mais c'est très variable, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais c'est naturellement des taux qui sont supérieurs à ceux dont nous avons, nous, l'habitude.
Parce que ce sont en fait des prêts qui vont avoir un effet de levier très important. C'est pour ça qu'on peut avoir aussi ce genre de taux.
Alors il y a plusieurs façons d'expliquer que les taux soient élevés. Premièrement, si le jeune qui emprunte à ce taux-là, et vous savez que dans certains cas ça peut vraiment aller très loin, s'il gagne dans sa journée plus suffisamment, il peut très bien lui rester quelque chose malgré le taux qu'il paye. Deuxièmement, si l'emprunteur n'obtient pas ce crédit auprès de l'institution, il va aller voir l'usurier. L'usurier, c'est en général toujours davantage. Et là, ça peut faire 40%, 50%, quelquefois même encore plus. Vous savez que le cas limite, et que l'on dit, dont on parle souvent, c'est l'opération de 5 to 6. C'est-à-dire que dans certains pays d'Asie, vous empruntez 5 pesos le matin, aux Philippines par exemple, hein, 5 pesos le matin, vous rendez 6 le soir. 20% par jour.
En taux annuel, ça fait c'est impressionnant.
Ah ben, c'est impossible à calculer. Parce que si vous calculez un taux composé, vous ne croyez pas les chiffres, vous faites l'opération 10 fois. C'est même pas possible de calculer. Alors ça se comprend. Si un gamin, vous comprenez, qui a un petit vélo ou un vélo moteur, si le matin il emprunte un petit peu d'argent et qu'il va au village chercher des ananas et qu'il vient les vendre en ville, s'il gagne 40%, il peut en donner la moitié à l'usurier. Comprenez ? Donc si vous voulez, ça, je ne légitime pas ça bien sûr, mais je veux dire, ça peut s'expliquer. Alors pour revenir à la microfinance, les taux d'intérêt sont élevés parce que premièrement, la gestion coûte cher. Deuxièmement, s'il n'y a pas ça, ben, ces usuriers, ce sont encore plus chers. Troisièmement, si l'emprunteur arrive à faire une activité avec cet argent qui lui permet de rentabiliser rapidement, vous comprenez, eh bien, ça peut valoir la peine.
D'accord. Il y a quelques impayés aussi.
Bien sûr. Là aussi, ça dépend. Certaines institutions arrivent à en avoir peu et sont bien gérées. 1 ou 2%. Quelquefois, c'est pas plus. Un Younou, c'était un peu ça. Quelquefois, naturellement, c'est davantage. Quand ça arrive à 5 et 10%, ça commence à devenir sérieux. Mais ça peut arriver. Et vous avez aussi des institutions qui grandissent tellement vite que, elles finissent par avoir des impayés. Et il y a des cas comme ça de difficultés dans certains pays, en Asie du Sud, enfin en Inde en ce moment, dans l'Inde du Sud en ce moment, il y a un problème. Il y a eu aussi un problème dans une grande institution mexicaine qui ont grandi trop vite et où par conséquent ben, ça a été mal géré et les emprunteurs ont commencé à ne plus rembourser.
D'accord. Donc on a beaucoup parlé du microcrédit dans les pays en voie de développement. On va peut-être parler avec, on va échanger avec Monsieur Arnaud Berger sur le microcrédit aussi dans les pays occidentaux, on va dire. Donc peut-être vous pouvez nous raconter, puisque vous êtes un historique de l'ADI, même si vous n'étiez pas là à sa création, si j'ai bien compris, mais peut-être le processus de création de l'ADI et un peu son histoire et la place du microcrédit dans l'économie des pays du Nord, entre guillemets.
Très bien, bonsoir. Donc l'ADI est une association qui a démarré fin 89.
Déjà, l'ADI, d'ailleurs. L'ADI, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors l'ADI, c'est Association pour le droit à l'initiative économique. D'accord. Donc c'est une association qui a démarré fin 89 et vraiment qui s'est inspirée, comme ça a été dit tout à l'heure, de la Grameen Bank, donc qui a transposé le modèle, qui partait la même hypothèse, qui était de dire... il y a parmi les gens dans la population pauvre des gens qui ont une petite activité et qui peuvent s'en sortir comme ça. Et donc au début, ben, l'association est vraiment allée au-devant de son public et a commencé à prêter avec des gens qui étaient SDF, à des gens qui habitaient dans des quartiers très pauvres, à des gens du voyage, identifiant à chaque coup des gens qui avaient des toutes petites activités.
Et à partir de quel fonds
ça a commencé un petit peu comme la Grameen Bank, avec les fonds de la présidente, des gens qu'elle a réunis autour d'elle. Puis progressivement, il y a...
Fonds des membres de l'association pour commencer.
Voilà. Et puis après, il y a des collectivités qui ont été convaincues ensuite de prendre le relais. Et on a transposé le modèle effectivement de garantie de la Grameen Bank. Ce qui s'est assez vite avéré un échec. C'est-à-dire que les mécanismes de
solidarité
qu'on transposait en France fonctionnaient pas de la même façon. Parce qu'on travaillait avec des gens qui se connaissaient beaucoup moins bien, dans certains cas qui se connaissaient pas.
C'était moins communautaire.
Voilà, il n'y avait pas cette relation-là. Pour réutiliser les termes que j'ai expliqués tout à l'heure, on est sur du microcrédit, pas de la microfinance, puisque nous, on peut faire que du crédit. On a absolument pas le droit de prendre d'épargne. Et donc, on a été obligé assez vite d'adapter le modèle. Et en fait, les adaptations, ça a été d'une part de fonctionner sur d'autres modes de garantie, c'est-à-dire finalement d'abord de construire une relation qui finalement allait remplacer la connaissance qu'il pouvait exister des emprunteurs quand ça se faisait dans des petits villages. Donc il fallait qu'on crée cette relation avec nos emprunteurs, qu'on la crée un petit peu de toutes pièces. Et puis assez vite, on est parti sur des mécanismes de garantie plutôt de l'entourage, où on demandait quelqu'un, une personne de l'entourage ou quelques personnes de se porter caution pour une petite partie du prêt. Mais comme ça, on savait qu'effectivement, la personne pouvait aussi s'appuyer sur son entourage, convaincre aussi autour d'elle de la pertinence de se lancer. Et on a vérifié aussi à l'expérience que c'était un moyen, quand il y avait des difficultés, que la personne baisse pas les bras, et effectivement, avec parfois des garanties qui incitaient la personne à se reprendre en main, à aller de l'avant, et donc à faire face à ces difficultés.
Les sommes que vous prêtez, c'est...
Alors, les sommes, effectivement, donc si on transpose sur notre contexte, nous on prête le maximum, il est à 6000 euros, ça a quasiment pas évolué depuis les origines, on est sur ces montants quasiment depuis les origines. Ce qui est venu en complément au fil des années, c'est de compléter notre intervention à microcrédit par des dispositifs de prêt d'honneur et des petits dispositifs de prime qui permettent finalement de pallier à l'absence pour nos créateurs de fonds propres. C'est-à-dire que, et ça, je pense, c'est une différence.
Alors juste, vous pouvez expliquer ce qu'est le prêt d'honneur?
Voilà. Peut-être en préalable de ça, une différence importante entre le microcrédit en France et la manière dont c'est pratiqué dans le Sud. Souvent, ou très souvent, je crois la plupart des cas dans le Sud, les organismes prêtent à des entreprises qui existent déjà, ou des activités qui existent déjà, et souvent des petites activités informelles. En France, en fait, on a développé avec des gens qui créent leur entreprise. Ce qui a une différence fondamentale, parce que d'une part, il y a besoin de beaucoup plus investir au démarrage, et c'est là effectivement que le prêt d'honneur a son sens. Donc prêt d'honneur, en fait, c'est des prêts sans intérêt. C'est-à-dire que c'est des prêts qu'on va faire sur une durée plus longue. On a convaincu un certain nombre de financeurs de nous mettre de l'argent à disposition pour pouvoir prêter cet argent qui va ensuite tourner, donc revenir, qu'on prête sur des durées assez longues, hein, puisque ça peut aller jusqu'à 5 ans. Et donc sans intérêt, ce qui effectivement remplace l'apport au sens où finalement la personne va investir dans son projet puis rembourser ça sur une durée assez longue. Là où le microcrédit va se rembourser avec intérêt et sur une durée plus courte, puisqu'on est sur un maximum de 30 mois.
D'accord. Ok, merci. Donc on va faire la première pause musicale. Nous allons écouter Mon Côté Punk, L'amour c'est trop cher.
L'amour c'est trop cher pour moi. Tellement je t'aime, une brique par mois. J'ai des doutes sur toi, mais aussi sur moi. Quand tu parlais de monnaie. Et à toujours me parler de monnaie. La prochaine fois, je repars avec le banquier.
Oh, l'amour a zoupé.
Donc nous venons d'écouter Mon Côté Punk, L'amour c'est trop cher. Donc vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM à Paris. L'émission de ce soir donc traite du microcrédit, de la finance solidaire. Quelle place pour la finance alternative dans l'économie actuelle? Donc on va peut-être continuer avec vous, Arnaud Berger. Alors on parlait de, vous avez parlé du montant un peu des prêts qui sont accordés. Alors par exemple, quels sont les projets que vous pouvez financer? Est-ce que vous pouvez nous présenter des projets un peu concrets comme...
Alors bon, on l'a vu tout à l'heure. Donc nous on prête des petits montants. Si on regarde effectivement ce que peut être une création d'entreprise en France, en moyenne, on est à 4-5 000 euros qu'on va mettre à disposition sous forme de ces microcrédits, prêts d'honneur, un petit bout de prime qui va venir en complément. Donc on a un peu des classiques, typiquement les gens qui font les marchés par exemple, des petites activités de prestation de services, des artisans, des gens qui sont dans le service à la personne. Donc ça va être des activités qui sont très classiques. En province, on est en capacité de financer des petits commerces, là sédentaires, avec ça peut être des petites boutiques. Et puis après, on a une myriade d'activités qui vont être très originales. Et là, on peut vraiment avoir des choses assez étonnantes parfois. Donc là, place. Aujourd'hui, j'entendais parler de quelqu'un qui customise des chaussures, par exemple. Donc voilà, qui va peindre, va vous faire vos propres chaussures comme vous les voulez. Donc voilà, là, on est sur quelque chose. Un projet comme ça, effectivement, on va en avoir un. Puis on n'en reverra pas d'autres comme ça dans les 10 années qui suivent. Et donc il y a d'un côté, effectivement, des activités récurrentes et en même temps aussi beaucoup de créativité.
Michel Lelard, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du poids du microcrédit? Je ne sais pas si vous avez des chiffres en France ou dans les économies du Sud.
Dans certains pays du Sud, oui, c'est difficile d'avoir des chiffres, mais ça dépend beaucoup des pays. Comme je disais tout à l'heure, ça dépend beaucoup des institutions. Certaines sont très importantes. Il y a des institutions qui ont 1 ou 2 millions de clients. C'est rare, mais ça arrive. Il y en a d'autres qui en ont quelques centaines. Donc, si vous voulez, l'importance quantitative, le volume de crédit, ça dépend beaucoup. Dans les pays africains, vous avez des pays dans lesquels ça se développe bien et ça commence à représenter, par exemple, facilement 10-15% des crédits bancaires, ce qui n'est pas mal. Parce que tous ces crédits, bien sûr, sont des petits crédits. Par conséquent, quantitativement, ça reste quand même très limité. Hein. C'est tout doucement que ça progresse.
Mais en tout cas, c'est pas un épiphénomène, puisque on les additionne tous, je voyais des chiffres là, sur 2009 du microcrédit Summit Campaign qui parlait de 11 milliards de dollars.
Ah oui.
Donc c'est bon, à l'échelle de l'économie mondiale, c'est pas une somme énorme, mais c'est quand même.
Ça progresse.
Une somme d'initiatives intéressantes.
Voilà, même quand ça ne reste pas très important quantitativement, ça progresse rapidement. Et ça, c'est vrai aussi bien au nord qu'au sud.
Nous, on n'est pas loin d'avoir financé 100 000 personnes.
D'accord.
Ah oui, mais c'est pas mal ça.
Ouais. Et avec les autres institutions à vocation de microfinance en France, ça représenterait combien de. Est-ce qu'il y a des chiffres globaux?
Moi, j'ai pas de chiffres précis, mais il y a effectivement, en particulier deux autres organismes qui interviennent sur des projets plus conséquents, puisqu'ils interviennent pour lever des prêts bancaires. En particulier, les plateformes d'initiative ont une activité à peu près comparable à la nôtre, donc vont aider entre 10 et 15 000 personnes par an. Donc, effectivement, ça commence à faire des nombres conséquents. Quoi.
Alors, est-ce que vous diriez que le microcrédit, il a une vocation économique, il a une vocation sociale, il a une vocation financière, il a une vocation même pacifiste, si on reprend le prix Nobel de la paix qui a été accordé à Monsieur Yunus. Donc, pour vous, est-ce que c'est tout cela à la fois?
Alors, peut-être pour commencer, pour moi, la vocation, elle est clairement sociale. C'est-à-dire que vraiment, l'enjeu, c'est d'aider, d'une part, des gens à créer leur propre boulot. Donc, il y a vraiment cette finalité-là. On s'adresse à des gens qui sont au chômage. En France, on est, pour l'a dit, on a à peu près la moitié qui sont bénéficiaires des minima sociaux. Donc, plutôt chômage longue durée, plutôt des situations avec des revenus qui sont limités. Et on va aider les gens à franchir le pas et à créer leur propre emploi. Au-delà de ça, pour moi, il y a vraiment l'idée qu'on porte un peu d'ailleurs dans notre nom de rendre les choses possibles et de vraiment mettre les gens en mouvement. Et vraiment, ma conviction, ça fait presque 20 ans que je suis à l'ADI, c'est que finalement, c'est pas tellement nos outils de crédit ou d'accompagnement qui font la différence, c'est vraiment dans la relation qu'on crée avec les personnes, dans le fait de rendre les choses possibles. Ce qui fait que d'ailleurs, au bout de 3 ans, on mesure qu'on a en gros encore à peu près 60% des entreprises qui sont en vie. Mais dans les personnes qui ont arrêté, il y en a la moitié qui ont retrouvé un boulot. Et vraiment, c'est parce que il y a eu toute cette démarche où la personne a créé son entreprise, a investi dedans, s'est mis en mouvement. Et du coup, derrière, les choses sont plus faciles.
Bon, on voit une passerelle un peu entre le microcrédit et la finance solidaire. Justement, on va écouter un premier extrait d'un documentaire qui a été réalisé en 2012 sur la NEF, donc la nouvelle économie fraternelle. Claude, c'est parti.
Voilà. Je travaille au CIC pendant plus de 6 ans.
D'accord.
Voilà.
Savoir à qui on confie son argent, moi aussi ça m'intéressait. Alors j'ai demandé à Virginie qu'elle me raconte un peu sa vie d'avant.
En fait, au tout début de ma vie professionnelle, c'était absolument pas la banque. La banque, ça a été un hasard alimentaire. J'aimais bien le contact avec la clientèle. J'aimais bien les aspects techniques J'aimais bien monter des dossiers de crédit, ce genre de choses. Mais à la fin, on me demandait de vendre des téléphones portables. On me demandait de vendre des systèmes de surveillance à distance des domiciles, parce qu'on vendait aussi de l'assurance habitation. On me demandait de vendre même des voitures en leasing, tu vois. Enfin, ce genre de choses. Et c'était de plus en plus éloigné du métier de banquier. Et quand j'avais des clients qui venaient pour demander un découvert, ils me disaient, propose-lui une prévoyance. Mais bon, tu veux un découvert. Oui, mais propose-lui quand même une prévoyance. Donc c'était des choses avec lesquelles j'étais pas bien. Ça me heurtait trop profondément.
Et le fait d'avoir des parts de capital, est-ce que du coup on devient
vous devenez sociétaire
de la coopérative.
Tout à fait.
Et du coup, ça nous donne aussi la possibilité de donner un avis ou de participer aux décisions.
Oui, tout à fait. En devenant sociétaire, donc on est en coopérative. Donc sur le principe, une personne égale une voix.
C'est ça. Hein?
Donc c'est pas comme dans une société classique où vous êtes actionnaire et puis vous pesez le nombre de voix que vous avez en capital. Là, c'est quelles que soient les parts que vous détenez, c'est une voix.
C'était un extrait du documentaire de Valérie Donnel, La banque qui veut prêter plus, sur la nouvelle économie fraternelle. Michel Lelard, pouvez-vous nous rappeler un petit peu les différences quand même entre les structures de la finance solidaire et du microcrédit? C'est quand même pas exactement les mêmes fonctionnements.
Effectivement, vous avez raison. La microfinance est plutôt du crédit. D'ailleurs, on parle souvent de microcrédit. Il y a des institutions qui ne font que du petit crédit, mais en général, enfin le plus souvent, les institutions font en même temps, comme tout à l'heure je vous disais, offrent en même temps des services d'épargne ou d'assurance ou de transfert. Donc ça, c'est la microfinance. La finance solidaire, c'est pas tout à fait la même chose. Elle se rencontre plus souvent au nord, alors que la microfinance est plus souvent au sud. La finance solidaire, c'est de l'argent qui est épargné et investi dans des opérations, si vous voulez, qui manifestent une certaine solidarité. Quelqu'un qui a de l'argent, au lieu de le déposer à la banque, sur un compte d'épargne, sur un compte de vie, sur un livret bleu, eh bien, il va souscrire, il va ouvrir un compte dans une institution qui va utiliser cet argent pour des raisons, pour aider à l'environnement, pour aider à l'insertion, enfin, voilà, avec des buts sociaux, si vous voulez, bien précis. Et ça peut être quelqu'un qui demande à ce que son argent soit employé comme ça. Ça peut être quelqu'un qui accepte qui touche un intérêt, mais pas la totalité. Une partie de l'intérêt va être utilisée pour des actions sociales. Donc, si vous voulez, la finance solidaire, c'est plutôt l'aspect ressources. C'est l'argent qui vient pour être investi dans ces actions. D'accord. Tandis que la microfinance, c'est plutôt du crédit qui est accordé aux gens.
D'accord. Et aujourd'hui, il y a une demande forte. Est-ce qu'on sent une demande forte de la part des épargnants de redonner un sens, on va dire, à l'argent qu'ils ont, à l'argent qu'ils placent? Est-ce qu'on voit des choses se passer dans l'économie aujourd'hui?
Alors, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est encore peu d'argent. Si on compare au crédit bancaire, notamment au niveau international, bien entendu, c'est encore peu d'argent, mais ça progresse très vite. Alors, j'ai pas le chiffre en francs, enfin, au niveau international, je sais que c'est peu de choses, quoi. Je dirais, je sais pas, moi, un dixième de 1%, enfin, de 1 pour 1000, enfin, bon. Un dossier finance solidaire, mais ça se développe. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cela, et par conséquent, ça a vocation à se développer.
Et en France, on pense à quelle institution, justement, au-delà de la nef, pratique cette finance solidaire?
Habitat Humanisme, vous avez France Active, je crois que c'est un petit peu la même chose. Vous avez
Crédit coopératif, non, qui
oui, on peut dire ça aussi. Oui, oui, la CIDI. Ce sont également des institutions qui quelquefois tendent à développer cela dans les pays du Sud. La CIDI, par exemple, tente à développer ce genre d'institution dans les pays du Sud. D'accord. Le Crédit Mutuel fait un peu la même chose.
Donc, d'après vous, Monsieur Lelard, la microfinance, c'est en fait un peu un contrat social entre la personne qui emprunte et celui qui va bénéficier de ce prêt.
C'est la finance personnalisée. Je crois que les personnes s'impliquent dans ces opérations financières beaucoup plus que dans la finance traditionnelle, c'est certain. Tout à l'heure, je vous disais, le microcrédit, c'est un crédit accompagné. Il y a une personne qui, en même temps, va aider l'emprunteur à mieux utiliser son crédit. Enfin, donc, il y a, dans les groupes, c'est la même chose. Il y a une relation sociale. Donc, c'est vraiment du crédit où les relations personnelles sont très importantes.
D'accord, c'est ça qui est...
La finance personnalisée.
C'est ça qui est un peu ressorti, c'est vrai, dans l'extrait qu'on a passé. Et ça, c'est assez intéressant, ce rôle. Est-ce que les banquiers sont formés, justement, à cet accompagnement? Il y a quelqu'un qui appuie le technicien financier sur ce rôle d'accompagnement. Alors, est-ce que c'est naturel?
Je dirais que la banque traditionnelle, celle que nous connaissons, ne fait pas ça. Mais dans les pays du Sud en particulier, des institutions de microfinance commencent à nouer des partenariats avec des banques. C'est-à-dire qu'il y a une articulation qui commence à se faire. Ou bien une banque va accorder un petit crédit à une institution si à un moment donné elle a besoin d'argent pour continuer à prêter. Ou bien la banque, ça peut aller jusque là, va ouvrir un guichet spécial qui est du microcrédit. On a le crédit normal dans les guichets habituels, mais il y a un crédit spécial. Un guichet spécial où les clients peuvent avoir un petit crédit. Puis vous avez des partenariats techniques pour aider les institutions. Donc les relations commencent à s'établir entre les institutions financières classiques, si je peux dire, et les institutions de microfinance.
D'accord.
En France, effectivement, nous, on a aussi des collaborations avec les banques. Ouais. D'abord, on emprunte maintenant aux banques pour prêter. Il y a eu toute une phase de l'ADI où l'ADI engageait de l'argent des banques, mais c'était les banques qui prêtaient. Puis maintenant, on a l'autorisation d'emprunter pour prêter. Et effectivement, je pense que ça intéresse les banquiers parce qu'on fait un métier qu'ils rêveraient de faire, mais qu'ils sont en incapacité de faire, qui est justement d'être dans une démarche d'abord où on prend en compte, on touche évidemment du doigt de beaucoup plus près le risque de manière individualisée. Au lieu de le raisonner statistiquement sur des grands nombres, on va effectivement très individualiser les choses. On va pouvoir se permettre, parce qu'on n'a pas la pression d'une rentabilité, d'accompagner les gens, donc de finalement passer plus de temps que ce que ça va coûter. Et on est dans une prise en compte du risque où on prend énormément en compte la personne. Alors que quand vous allez demander un crédit professionnel, on va vous demander de pondre des prévisionnels.
C'est dépersonnalisé.
Voilà, c'est beaucoup plus dépersonnalisé.
On va écouter un deuxième extrait du documentaire « La banque qui veut prêter plus » de Valérie Denel. Ça fera peut-être arriver le représentant de la Nef, Henri Giroux, qui doit nous appeler. Donc on écoute ce deuxième extrait. On revient tout de suite.
À la fois, nous, je dirais que la Nef nous intéresse pour placer notre trésorerie et également pour obtenir des prêts.
On n'est pas dans le cœur de cible de notre activité, puisque traditionnellement, on est quand même plutôt sur des petites entreprises, vraiment des choses très très militantes, mais on s'ouvre de plus en plus, on constate que des entreprises, grosses entreprises solides, un peu comme la vôtre, qu'on des activités, on va dire, un petit peu plus neutres, puisque effectivement, même si vous avez des activités tournées vers la HQE et toutes ces choses-là, vous faites aussi des activités bien plus traditionnelles.
On a une trésorerie. Et cette trésorerie, donc, on la place, mais on ne sait pas où on la place. Et je pense que, vu ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on constate avec la politique de certaines grandes banques, ben on pense qu'effectivement, nos fonds ont beaucoup de chances d'être mal utilisés. Donc ça, on pourrait prendre effectivement un engagement, ça pourrait prendre une valeur, c'est que de s'assurer que la trésorerie dont on dispose va sur des projets qui portent les mêmes valeurs. Mais c'est vrai que ce sont des discussions qu'on n'a pas suffisamment avec les banquiers. Il y a toujours une relation à l'argent qui est un peu spéciale. Ça m'a surpris en 2008, quand j'ai vu arriver ce problème de subprime. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi ? Les responsables des banques ne comprennent rien aux produits qui vendent à leurs clients. Et moi, ça, je trouve ça consternant, parce que moi, tous les produits qu'on vend dans l'entreprise à nos clients, moi, il faut que je les comprenne. Il ne s'agit pas que je les comprenne dans le détail, mais je comprends ce qu'on vend.
Ben ça, c'est très très loin de nos pratiques. C'est d'ailleurs justement pour ça qu'on veut vraiment aussi, nous, devenir autonome, puisque aujourd'hui, finalement, même si on est autonome sur notre activité de crédit, on est associé au Crédit Coopératif, qui est lui-même, depuis quelques années, associé au groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et donc, on sent bien que cette nébuleuse, elle n'est pas très très loin de nous et que...
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps...
Donc on vient d'écouter un nouvel extrait du documentaire de Valérie Desnel, La banque qui veut prêter plus, ADR Productions, consacré à la nef. Peut-être est-ce que vous avez une réaction par rapport à cet extrait?
Non, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça montre bien la différence qu'il y a entre ces formules de finance alternative et puis la finance classique.
Moi, bon, effectivement, ouais. ce que ça m'évoque, c'est que... Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est somme toute très simple et très concret. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait des petits prêts. Enfin, voilà, on est sur des choses qui sont qui se raccrochent au réel, quoi. Et on voit bien de ce point de vue-là que là aussi, c'est ce qui fait que finalement, dans nos équipes de bénévoles, on retrouve aussi des gens qui ont travaillé dans la banque, qui sont très contents à nouveau, à leur retraite, de faire des choses qui se connectent à l'humain, qui se connectent au réel, quoi. Et moi, c'est effectivement ce que j'ai entendu, ça me parle dans ce qu'on fait, quoi.
D'accord. Bah, très bien. Donc, quels sont. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une relation entre quand même un minimum entre le monde de la finance classique et le monde de la microfinance. Oui. Donc, on abordera ce côté. Disons qu'on peut pas extraire. La question, c'est est-ce qu'on peut un peu extraire le microcrédit du système financier dans son ensemble ?
Qui se fait pas rattraper par des circuits financiers plus complexes.
Ah bah, moi, je dirais au contraire qu'à l'heure actuelle, on essaie justement d'inclure la finance informelle, la microfinance, je veux dire, dans le système financier. On parle beaucoup de finance inclusive. Hein, et on considère qu'il est normal que le crédit accordé aux pauvres fasse partie d'un crédit normal et qu'il y ait des institutions qui accordent du crédit à toutes les catégories de personnes. Hein, les grosses institutions pour les gros crédits, immobilier, international, tout ce que vous voulez. Et puis dans le système financier, il y a aussi des institutions beaucoup plus modestes qui accordent du petit crédit. Ça fait partie de la finance, du système financier inclusif. On parle beaucoup aujourd'hui de ça.
C'est la même expérience qu'on fait en France. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on était un petit peu un ovni dans son coin. Aujourd'hui, on travaille avec quasiment toutes les banques françaises. Et certaines, je pense, considèrent qu'effectivement, on fait ce qu'elles pourront jamais faire. D'une part, d'un point de vue économique, parce qu'effectivement, elles pourraient pas prêter les petits montants qu'on prête. Elles pourraient pas y passer le temps qu'on y passe. Et puis, probablement aussi en termes d'approche et de valeur. Et du coup, ça complète effectivement ce qu'elles vont faire, mais dans des choses qui se développent d'une part, et puis qui sont de plus en plus intégrées, où il y a différents outils pour répondre à différents besoins.
Mais quand vous dites vous travaillez avec différentes banques, c'est selon quelle
à qui on emprunte en fait,
oui,
mais à
dans
qui on emprunte
là, oui.
Vraiment à des conditions avantageuses, et certaines nous soutiennent dans notre fonctionnement. Enfin voilà, on a aussi des relations.
Vous leur faites pas de microcrédit.
Non. C'est elles qui nous font des microcrédits.
Donc pour continuer sur ce thème, on va faire une petite pause musicale et on va écouter Volo régulé. Titre régulé qui vous a donc tout expliqué sur la crise financière. Donc vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. L'émission de ce soir de la Fondation Copernic traite de la place de la finance alternative dans l'économie actuelle. Donc nous avons donc en ligne monsieur Henri Giroux.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Donc, ce soir, vous représentez dans notre émission, on va dire la nef, donc la nouvelle économie fraternelle. Est-ce que vous pouvez nous la peut-être dans un premier temps nous la présenter son histoire et son mode de fonctionnement?
Oui, alors l'ANEF, c'est une société financière sous forme coopérative, hein, c'est de la finance solidaire, et elle se réclame de la mouvance de la, j'en appelle la finance éthique.
Ouais.
Alors comment ça a commencé l'ANEF? C'est tout simplement quelques amis qui ont mis de l'argent en commun pour aider un de les leurs à se lancer dans l'agriculture biologique, et ça c'était à la fin des années 70. Voilà. Et donc ils ont monté une association, puis ils ont financé d'autres agriculteurs comme ça, puis d'autres secteurs, d'autres, voilà, petit à petit ça aussi. Et puis en 1984, il y a eu ce qu'on appelle la réforme bancaire, donc la loi bancaire, qui faisait que seules les institutions financières reconnues et agréées pouvaient faire du crédit. Donc, effectivement, l'association a décidé d'essayer de monter une banque.
D'accord.
Malheureusement, le capital récolté n'a pas été suffisant. Il était juste suffisant pour monter une société financière. Alors, la différence avec une banque, entre une société financière et une banque, c'est que la NEF, en tant que société financière, ne peut pas avoir pour ses clients des comptes chèques, des pourvus vus, des choses comme ça. Donc,
d'accord.
C'est de l'épargne qui a plus de 2 ans.
Plus de 2 ans, c'est ça? Ouais.
Voilà, à partir de 2 ans, ou du capital social, des parts sociales dans la coopérative, tout à fait.
D'accord.
Voilà. Par contre, au fil des années, avec l'importance que ça a pris progressivement, on a eu un accord avec le crédit coopératif qui permet d'avoir un compte chèque libellé NEF, mais qui est géré par le crédit coopératif. Bien que ces fonds, une partie de ces fonds, soit utilisé ensuite pour la NEF pour financer des projets. Il y a la même chose avec un livret NEF au crédit coopératif, c'est la même chose. Cette épargne, en fait, elle est utilisée pour financer des projets. Alors, je crois que vous avez parlé du reportage de Valérie Daniel, c'est cela?
Oui, tout à fait. Donc, on a passé déjà 2 extraits de ce documentaire.
Voilà. Donc, l'épargne, vous avez pu voir peut-être entendre à quoi il servait, à quoi elle sert, mais en fait, c'est surtout dans les secteurs, je dirais, de l'environnement, donc tout ce qui est l'agriculture biologique, bien entendu, hein, que ce soit de la production jusqu'à la distribution, en passant par la transformation. C'est tout ce qui est dans l'environnement, bien sûr, autour des énergies renouvelables. C'est aussi dans le domaine social, avec le financement d'entreprises d'insertion qui aident justement à faire que des gens qui sont en difficulté socialement puissent retrouver un emploi. Et puis même dans le domaine culturel, mais au sens large, hein, ça comprend aussi bien sûr, les aspects artistes, mais aussi l'enseignement, la santé, etc. Donc c'est avant tout des projets, je dirais, qui respectent l'être humain et l'environnement, hein, au minimum, voilà, qu'il n'y ait pas de dégâts. Mais surtout, on essaye de favoriser des projets innovants qui amènent une certaine plus-value sociale ou culturelle à la société.
Justement, on va écouter un dernier extrait du documentaire sur la nouvelle économie fraternelle qui traite d'un projet d'un paysan boulanger.
Tout à fait.
Donc c'est Victor qui est
boulanger, qui en plus
il est boulanger, ça fait 7 ans. Personnellement, je mange son pain vu qu'il livre à la MAP à laquelle je suis. Et voilà, il avait un four là depuis qui s'était installé, qui a donc 7 ans, qui était vraiment arrivé à bout de course.
Ça, c'est ce qu'il fait à l'heure actuelle. Donc, c'est ses chiffres de 2010. Et il a ajouté qu'il peut à peu près, sur 16 semaines, faire 150 pains en plus. Voilà, en 2011. Et donc, le chiffre d'affaires est plutôt raisonnable puisqu'il prévoit, du coup, que ça lui fasse 15 à 20 000 euros de chiffre d'affaires en plus d'ici 2 ans.
Et puis, il va faire des comptes avec un bilan et tout ce qu'il faut. Ça serait bien.
Est-ce qu'on est en droit de les obliger à faire ça?
Quand on emprunte, il faudrait essayer de le convaincre qu'il faut faire un bilan.
D'accord.
Ok, il est bien savoir.
Et donc, pas de livraison du four avant qu'on puisse le mentir. Et plutôt essayer d'avoir des comptes certifiés et agréés.
Il touche du blé, en fait, non?
Pardon?
Du blé, il en fait ou pas?
Oui.
Oui, il fait, il fait la farine. Parce que je me disais, il est agriculteur à cause des poules qui sont à côté.
Non, non, il est vraiment paysan boulanger. Donc le principe, c'est qu'il a ses 13 hectares de céréales qu'il cultive pour
son pain et pour nourrir ses poules.
De fait.
Ok.
Le prêt n'était pas encore accordé. Il fallait pouvoir nantir le four et fournir des comptes détaillés. Plus de garanties pour faire prendre le moins de risques possible à l'épargnant.
Il y a quelque chose pour lequel je ne souhaite pas du coup déroger, du tout déroger, c'est le fait que l'investissement, ça mérite une rémunération, le capital mérite une rémunération et qu'on souhaite être rémunéré du risque qu'on prend, ça me paraît être quelque chose de naturel. Et je suis pas du tout contre le côté capitalistique et c'est nécessaire à la survie de notre société. Par contre, ne penser que taux d'intérêt sans se poser la question de comment il est formé et de pourquoi il arrive comme ça et surtout il m'en faut un le plus haut possible, le plus vite possible. Si on peut définir ça comme la cupidité, effectivement, c'est le mal de notre société, quoi. Enfin, pour celui qu'on vit au quotidien au niveau de la nef, en tout cas, c'est celui qu'on souhaite combattre, ça c'est clair.
Henri Giroux, là, on voit bien justement que la nef cherche un équilibre entre ses principes éthiques et reste une entreprise et doit trouver les moyens de sa survie et de la maîtrise des risques par rapport aux prêts qu'elle fait.
Tout à fait, vous avez raison. Il y a besoin de revenus pour faire fonctionner l'entreprise nef, hein, puisque les chargés de crédit qui analysent les dossiers, qui rencontrent les gens, mais il faut les rémunérer et c'est tout à fait normal. Donc il faut trouver toujours un équilibre et voilà. Donc c'est pourquoi la nef croît, mais elle croît progressivement, tout doucement. Parce qu'elle ne peut pas dégager des très gros résultats pour pouvoir embaucher encore plus de monde, etc.
Vous devez maîtriser vos éventuels taux d'impayés. Vous ne pouvez pas prêter les yeux fermés sur un projet dont vous n'avez pas tenant les aboutissants.
Voilà. Vous voyez, quand on demande une garantie, c'est parce qu'on ne sait jamais dans la vie d'une entreprise qu'il peut y avoir des aléas et l'entrepreneur peut être amené à ne pas rembourser le prêt à un moment. Donc s'il n'y avait pas les garanties, on perdrait tout l'argent. Et donc les épargnants, quelque part, ils vont perdre de l'argent, voilà, au final. Parce que si la nef ne peut pas garantir effectivement ses remboursements, ça va amener à la faillite de la nef.
D'accord,
donc
ouais.
Voilà, donc okay. Il faut d'abord de bons projets, hein, comme, ouais. Comme toute banque qui se respecte, elle va financer les choses qui aiment la route a priori, mais on ajoute à ça tout ce qui est facteur non économique. On analyse tout l'environnement, on environne la personne, sa politique sociale, la politique au niveau du personnel, la rémunération, comment les salariés sont impliqués dans l'entreprise, au niveau
d'accord,
des décisions.
Ouais.
Bon, il y a critères, tout un tas de choses ouais. Qui font de critères diététiques qui vont faire qu'on va prendre la décision de le financer.
D'accord. Donc, bah, merci pour votre témoignage. Donc là, on arrive dans les dernières minutes de l'émission. Donc, je voulais interroger Monsieur Lelard donc sur peut-être est-ce qu'il y a une évaluation qui est faite des gens qui bénéficient, enfin des emprunteurs qui bénéficient du microcrédit. Est-ce que voilà, on observe un recul de la pauvreté. Quels sont les bénéfices ou enfin il y a eu quelques critiques qui ont été émis à propos de la microfinance ou du microcrédit. Est-ce que voilà, quelle est votre réaction sur ce point?
C'est difficile d'avoir des idées précises parce que c'est difficile d'évaluer l'évolution du revenu. D'abord, la pauvreté, ce n'est pas que du revenu, ce sont des conditions de vie et tout ça, c'est assez difficile à évaluer. C'est du qualitatif et non pas seulement du quantitatif. Il faut faire des enquêtes, il faut les renouveler, il faut les faire nombreuses dans l'espace pour pouvoir comparer des personnes qui recourent au crédit et d'autres qui ne recourent pas. Donc, si vous voulez, c'est assez difficile à savoir tout cela. Ce que l'on peut dire, c'est que globalement, naturellement, la microfinance a des effets positifs, ça c'est certain, mais ça ne réussit pas toujours. On entend parler des cas qui réussissent bien, mais on ne parle pas des cas qui réussissent moins bien. D'autre part, la microfinance reste, comme vous le disiez, assez limité. Ça progresse vite, c'est vrai, mais ça ne représente pas encore beaucoup. Et puis il y a aussi une dernière chose, si vous permettez, c'est qu'on se rend compte que dans les pays du Sud, la microfinance ne va pas aux plus pauvres des pauvres. Ça, c'est une observation que l'on fait assez généralement, si bien que les institutions, si vous les prêtent, à des personnes qui ne sont pas au plus bas de l'échelle.
D'accord.
Et ce qui est un inconvénient, c'est que ça conduit à accroître les inégalités. Donc ça, c'est un inconvénient.
Merci. Avant de conclure, une dernière question à Arnaud Berger sur les perspectives et puis les propositions qui pourrait faire que le microcrédit se développe encore plus en France ou en Europe.
Alors, pour en tous les cas parler de la France, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a encore énormément de gens qui ne nous connaissent pas. Ouais. Et donc, c'est surtout là-dessus qu'on travaille. D'abord en proximité, en essayant le plus possible de travailler localement, en lien avec des structures très locales. Et puis
votre public cible a plutôt tendance à s'augmenter avec l'augmentation du chômage.
Alors, effectivement.
Depuis 3-4 ans.
Donc voilà, on sait que les besoins sont là et qu'il faut qu'on fasse plus. Donc on croît d'année en année. On fait aussi des opérations ponctuelles de communication. On a en l'occurrence entre le 4 et le 8 février notre semaine annuelle du microcrédit, donc qui est notre gros temps de communication fort. Sur lequel en particulier on va au-devant de la population dans beaucoup d'endroits. Il y a toutes les informations sur notre site www.adie.org. Voilà, donc ça effectivement c'est un des moyens pour essayer de faire plus connaître le système et d'aider plus de gens.
D'accord. Bien, merci. Donc l'émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc on voudrait remercier bien sûr nos invités, donc Arnaud Berger, donc directeur régional Île-de-France de l'ADI, donc Michel Lelard du CNRS et du laboratoire d'économie d'Orléans, et puis bien sûr aussi Henri Giroux, donc qui représentait la NEF et qui nous a appelé au cours de cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org. Vous pourrez télécharger cette émission et écouter les précédentes. La prochaine émission donc a lieu le 22 février et traitera en particulier de l'accord entre les syndicats et le patronat. Pour finir, en musique, nous allons écouter Tikenja Fakoly. Au revoir à tous.